D'accord. Et juste sortir aussi ma montre. Pas dépasser, pas m'emporter dans mon témoignage. C'est bon, sinon je vais écouter. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est ça, effectivement, je connais Lise depuis... ça fait déjà quelques années. Lise vient fréquemment, une fois par mois, à nos soirées de prière avec des chants taisés. Donc, je la côtoie depuis ce temps-là. Puis à un moment donné, c'est au mois de février, elle m'a demandé... si j'acceptais de venir dans votre groupe de foi et partage pour faire, ce qu'elle m'a dit, un témoignage ou un entretien. Donc moi j'ai fait un peu des deux. Elle m'a dit le thème « Dieu a besoin de moi ». Puis, oui?
C'est trop fort.
Non.
Je peux, ça va?
Oui.
En fait, n'hésitez pas à me faire signe là, s'il faut que j'adapte. Donc, oui, c'est ça. Et donc, depuis, elle m'a demandé ça au mois de février, puis depuis ce temps-là, je réfléchis un peu à cette question-là. Dieu a besoin de moi. Est-ce que Dieu a besoin de moi? Comment il a besoin de moi? Ça m'a fait, je veux dire, ça m'a fait beaucoup beaucoup réfléchir. Puis aujourd'hui, je vais vous partager un peu le fruit de mes réflexions, basé beaucoup sur la parole de Dieu, puis sur mon expérience aussi, comme mari, comme papa de trois enfants. Voilà. Donc, la première chose qui m'est venue, c'est un verset du psaume 8. Je vous le lis. Après ça, je vous ferai mon commentaire. Psaume 8, avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Pour tout vous dire, le thème « Dieu a besoin de moi » nous apparaît peut-être pas nécessairement évident au premier abord. Est-ce que vraiment Dieu peut avoir besoin de moi? Dieu qui a créé le ciel et les étoiles, Dieu qui a créé l'univers, qu'est-ce que je peux lui offrir à Dieu? Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu que lui n'a pas déjà ou qu'il ne pourrait pas se procurer? Qu'est-ce que moi, dans mon quotidien très occupé, qui arrive au bout de la journée fatigué, qui a la difficulté des fois à simplement faire le ménage chez moi, qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Comment est-ce que Dieu peut avoir besoin de moi? Et ça m'a fait réaliser que ça m'a rappelé qu'on est dans un état de dépendance totale à Dieu, en fait. Dieu nous donne tout. Dieu nous donne la vie, nous donne l'existence, nous permet de vivre, nous a donné une planète, un univers dans lequel on peut se nourrir, on peut travailler, etc. Ça me fait penser encore à un autre psaume. Le psaume 103, celui-là. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends ton souffle, ils expirent et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Donc cet état de dépendance de l'être humain à Dieu, et qui est en fait une bonne nouvelle. Qui est en fait une bonne nouvelle, parce que finalement, on peut dire merci à Dieu. On peut être dans un état de gratitude, une action de grâce, en fait, pour tout ce que Dieu nous donne, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a reçu. On sait à qui dire merci, c'est à Dieu. C'est lui qui nous a offert tout ça. Voilà. Et donc, si Dieu a besoin de nous, c'est parce qu'il nous aime. Si Dieu a besoin de nous, c'est parce qu'il veut avoir besoin de nous. Il nous a choisis, il nous a élus, nous, les êtres humains, pour bâtir une alliance avec lui. Et voilà. Et c'est dans cette optique-là, dans cette dynamique-là, qu'on peut comprendre cette idée que Dieu a besoin de nous. Je vous ai dit que j'ai trois enfants. Et pour moi, mes enfants sont souvent une source de découverte et d'émerveillement. Mes enfants m'enseignent beaucoup, je veux dire, par rapport à dans ma foi, par rapport à Dieu. D'abord, la prière des enfants, c'est quelque chose de magnifique. Nous, dans notre famille, on a instauré un petit temps de prière le soir, avant d'aller se coucher, on se réunit tous, famille, puis on prie. C'est magnifique d'entendre la prière qui sort de la bouche d'un enfant. Un enfant qui dit merci, justement, à Dieu. Merci pour sa journée, pour ses amis, pour les activités qu'il a faites. Et mes deux plus vieux, alors j'ai trois enfants, je vous l'ai dit, j'ai un garçon qui s'appelle Thomas, qui a 5 ans et demi, un deuxième qui s'appelle Augustin, qui vient de fêter ses 3 ans, et Rosemary, notre petite fille, qui a 9 mois. Et Thomas et Augustin, depuis, je dirais un an et demi, ont découvert les dinosaures. Ils ont des figurines de dinosaures, leur salle de jeu est pleine de dinosaures, ils parlent de dinosaures. Thomas, le plus vieux, a reçu à Noël une encyclopédie de dinosaures, il a plein partout, ça fait même pas 6 mois qu'il l'a, puis il a déjà tricorné, on dirait que ça fait 10 ans qu'il la lit, qu'il la traîne avec lui. Puis comme on est une famille, on a la foi, on parle de Dieu, bien il vient la question à un moment donné, mais papa, pourquoi Dieu a créé les dinosaures? Pourquoi Dieu a créé les dinosaures? Et réfléchir à cette question aussi banale qu'elle puisse paraître au premier abord, ça m'a fait réaliser quelque chose de Dieu. Quand on regarde la création, quand on regarde dans les détails, comme le font les enfants, ils pensent trop aux choses en général, ils regardent les détails, ils sont émerveillés. Nous, ça pourrait être émerveillé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? C'est pas vraiment, j'ai été émerveillé par quelque chose, c'est que ça sort de l'ordinaire. Mais les enfants sont émerveillés par l'ordinaire. Ce qui est commun, ce qui est banal pour nous, pour eux, c'est nouveau. Ils regardent ça avec des yeux écarquillés. Une fleur, un insecte, un oiseau, un ciel, tout peut devenir source d'émerveillement pour un enfant. Et quand on regarde cette création que Dieu nous a donnée, moi, ça m'a instruit sur Dieu. Ça m'a instruit sur Dieu, je dirais, en prenant conscience que Dieu a créé tout ça pour nous. Dieu a créé les dinosaures. Dieu a créé les kangourous. Il a créé les girafes, les éléphants, les pissenlits. Il a créé les petits insectes qu'on part à la chasse aux insectes dans notre jardin. Il a créé les fleurs, il a créé les fruits. Et ça m'a enseigné sur Dieu. Comment est-ce qu'on peut imaginer un Dieu austère et sévère que créé des kangourous? Comment est-ce qu'on peut imaginer un Dieu qui est sévère, qui nous punit, qui est un Dieu qui a créé quelque chose d'aussi incroyable qu'un éléphant? Non, ce regard de l'enfance m'a beaucoup appris sur Dieu. Ça fait éclater, ça fait disparaître en fait de mon esprit une image sévère et austère de Dieu pour faire la place à l'image d'un Dieu joyeux. Un Dieu qui prend plaisir à ce qu'il a créé, qui s'émerveille lui aussi de la création, qui regarde ça lui aussi avec une grande joie. J'irais même jusqu'à dire un Dieu exubérant, un Dieu qui va créer des choses apparemment pour rien, juste pour la joie de les créer, juste pour la joie de diversité de plantes, d'animaux. Je vous lis une citation d'un auteur que j'aime bien, qui s'appelle Chesterton. C'est un auteur anglais du début du 20e siècle, un catholique qui a écrit beaucoup. Et il parle justement de l'enfance et de Dieu. Comment on peut avoir une idée de Dieu en pensant aux enfants? Il dit la chose suivante. C'est parce que les enfants débordent de vitalité, parce qu'ils sont farouches et libres de l'esprit, qu'ils veulent que les choses se répètent et ne changent pas. Ils demandent toujours encore. Hein? Les enfants, c'est comme ça, ils demandent toujours encore. La même histoire, le même jeu, la même culbute. Encore. Et la grande personne, l'adulte, recommence encore, jusqu'au bord de l'épuisement. Car les grandes personnes ne sont pas assez fortes pour exulter dans la monotonie. Ça nous en prend beaucoup des fois pour être surpris. Hein, pour, on en regarde des fois blasé sur la vie, on a peine à s'émerveiller du don que Dieu nous fait. Mais... Et là, Chesterton dit la chose suivante. Peut-être Dieu, dit-il, tous les matins au soleil, allez, encore. Et tous les soirs à la lune, allez, encore. Ce n'est pas forcément une nécessité absolue qui fait que toutes les marguerites le ressemblent. Peut-être, Dieu a-t-il créé chaque marguerite séparément. Et qu'il ne se lasse jamais de les faire ainsi. Peut-être Dieu a-t-il un éternel appétit d'enfance. Car si nous avons péché, nous avons grandi, notre Père, lui, est toujours plus jeune que nous. Voilà. Donc, première étape de ma réflexion, c'était ça. C'est qu'on est dépendant de Dieu. Dieu nous donne tout. Et en même temps, ce tout que Dieu nous a donné, cette création nous parle de Dieu. Déjà, nous dit de très belles choses, en fait, sur Dieu. Et en même temps, voilà, il y a cette image de Dieu qui se réjouit. Et Dieu, en même temps, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament, voilà, Dieu n'est pas un Dieu naïf. Hein? Je parle de belles choses aussi à présent, mais aussi, on se souvient que dans le monde, il y a le mal, il y a... la maladie, les injustices, il y a tout ça. Il y a la violence, la mort. Et donc Dieu est un Dieu aussi qui s'engage. Dieu est un Dieu qui s'engage dans l'histoire. Dieu ne laisse pas les choses aller. Dieu prend parti dans l'histoire. Il prend parti à côté des pauvres. Il prend parti à côté des malades, de ceux qui souffrent d'injustice. Il prend parti pour la justice. Il prend parti pour le droit. Il défend son peuple. Il va lutter aux côtés de son peuple, contre les adversaires du peuple qu'il a élu. Le Dieu de la Bible, en fait, est un Dieu qui intervient. Puisque notre monde, malheureusement, est marqué aussi par le mal, et puisque Dieu, à l'origine, voulait que toute chose soit belle, mais il prend parti pour restaurer, en quelque sorte, cette beauté qu'il veut offrir à tous. Donc, voilà. Dieu s'engage. Et c'est dans cette dynamique-là de Dieu qui veut restaurer le bien, qui veut restaurer la vérité, qui veut restaurer la beauté, qu'il a besoin de nous. Qu'il décide librement de nous demander notre aide pour qu'il établisse une alliance avec l'humanité. Je vous lis un petit extrait du livre d'Isaïe. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Dieu veut nous utiliser, je dirais, il veut nous embarquer dans ce grand plan d'amour qu'il a pour l'humanité. Et aussi improbable que ça puisse paraître, même si on n'a rien n'a offert à Dieu que Dieu n'a pas déjà, bien gratuitement, il veut créer une alliance avec nous, il nous demande d'être lumière des nations, rien de moins, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Bon. Et donc, il y a, en toute chose, Dieu va solliciter notre participation. Dieu va solliciter notre oui. Une figure à laquelle j'ai beaucoup pensé pendant les derniers mois, en réfléchissant à cette question, est-ce que Dieu a besoin de nous, c'est la figure de Marie. La toute-puissance de Dieu s'arrête toujours à la porte de notre cœur. La toute-puissance de Dieu s'arrête toujours à la porte de notre cœur. Dieu est tout-puissant, Dieu crée. En même temps, Dieu ne va jamais forcer notre liberté. Il nous aime, et comme on le sait, l'amour implique la liberté. n'y a pas d'amour s'il n'y a pas un oui libre, un consentement libre. Et pour offrir son salut à l'humanité, pour offrir son Fils, pour que Jésus vienne s'incarner sur terre, il a eu besoin du oui de Marie. Envoyer un ange, puis on peut s'imaginer la scène, hein, l'ange qui vient visiter Marie, une jeune fille qui n'avait jamais rien demandé de tout ça, hein, qui n'avait jamais cherché à avoir un rôle si important dans l'histoire de l'humanité. Et il va demander à Marie, l'ange va demander à Marie, « Veux-tu, Marie, porter cet enfant ?» Je t'annonce quelque chose. Mais je dirais, imaginez-vous tout le monde invisible, tous les anges qui étaient suspendus à la réponse de Marie. Qu'est-ce qu'elle va répondre? Parce que Marie était libre. Marie n'était pas plus forcée. Dieu n'est pas venu pour instrumentaliser Marie comme on instrumentalise un objet. Dieu a demandé à Marie, est-ce que tu veux, Marie, porter cet enfant? Tu s'appelleras Jésus. Tu seras la lumière des nations, mais... Il y a Marie qui pose une question, comment est-ce que ça va se faire? Une hésitation peut-être? J'ai des gens, oh mon Dieu, est-ce qu'elle va dire non? Qu'est-ce qui va se passer si Marie dit non? Puis finalement, ben, dans sa foi, Marie qui dit, ben, qu'il me soit fait selon ta parole. Ouf! Elle a dit oui. Elle a accepté. Librement. Et donc, Dieu a besoin de nous dans ce sens. Dans ce sens où il veut notre participation, il nous demande à chacun et chacune, est-ce que tu veux participer? D'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. Chacun c'est différent. Il n'y a pas ici il n'y a pas de recette toute faite par rapport à ça, mais c'est à chacun de discerner l'appel que Dieu a sur lui personnellement. Je vous donne d'autres exemples. Je parlais de Marie, l'Eucharistie. Je vous cite un extrait d'une homélie de Benoît XVI. Alors, en y regardant de plus près, ce petit morceau d'hostie blanche, ce pain des pauvres, nous apparaît comme une synthèse de la création, ciel et terre, mais également activité de l'homme, ciel et terre, et l'homme coopère. La synergie des forces qui rend possible sur notre pauvre planète le mystère de la vie et l'existence de l'homme, nous est présentée dans toute sa merveilleuse grandeur. Quand vous pensez à l'Eucharistie, Dieu a choisi de venir présent dans le petit bout de pain. Mais en même temps, on peut penser à... Dieu a choisi le pain. Le pain, c'est quelque chose qui est, comme on le dit dans la prière à la messe, qui est le fruit de la terre et du travail humain. Sans être humain pour cultiver la terre, pour faire pousser du blé, pour ensuite récolter, développer toutes les techniques de boulangerie que je ne connais pas du tout, mais Dieu a besoin de ça. Hein. Pour s'offrir dans son Eucharistie, il a besoin d'hommes et de femmes qui travaillent, qui offrent, qui travaillent la terre pour faire le pain, c'est tout qui mort. Pour faire, voilà. Donc, Dieu se plaît dans chacune des étapes ou chacune des dimensions en fait de son salut à demander notre participation. Voilà. La vie humaine, c'est la même chose. Vous savez tous comment on fait des enfants. Mais pour se créer une nouvelle âme, hein, Dieu qui veut nous inviter au festin des noces de l'agneau, qui veut nous inviter dans son royaume. Mais il veut qu'il y ait des invités, il veut de nombreuses âmes. Alors il a créé Adam et Ève, mais après ça, il a confié à l'humanité, en quelque sorte, cette participation. Hein. On parle de procréation. Quand on fait un enfant, on procrée, mais procréer, c'est créer avec. Hein. Et Dieu choisit d'associer finalement l'amour humain à ce plan de création de l'humanité. Il donne une âme au moment où il y a conception. Donc, dans toutes les dimensions de la vie, dans toutes les dimensions du salut, cette coopération entre Dieu et l'humanité est impliquée. Il y a sûrement beaucoup d'autres exemples, mais là, j'en ai choisi quelques-uns qui me semblent mettre en évidence cette nécessaire coopération. Et j'ai insisté sur la liberté qu'on a, nous, comme être humain. L'image, puisque c'est parce que je suis marié, mais l'image de l'épouse et de l'épouse me parle beaucoup. Hein. Thérèse disait, je suis la fiancée de celui que les anges serviront en tremblant toute l'éternité. Ça, c'est chaque personne qui peut dire ça. Même les hommes, on est tous cette épouse que l'époux a choisie. Et justement, puisque c'est une histoire d'amour, mais il n'y a pas ici de contrainte indiquée. C'est toujours dans la liberté. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre tous les sacrements, je dirais, et une forme ou l'autre de magie. Les sacrements impliquent, c'est du surnaturel, mais ça implique notre liberté. Dans le sacrement du pardon, c'est deux libertés qui se rencontrent. La liberté de Dieu qui veut nous pardonner, sa volonté de nous pardonner, de nous donner la grâce, et en même temps, nous, notre liberté aussi de se reconnaître fautif, de demander la grâce de Dieu. Et jamais, à aucun moment, il y a quelque chose de magique qui intervient là-dedans, dans le sens où c'est pas quelque chose qui compte notre liberté, mais c'est ça implique notre liberté. Voilà. Dernier petit temps de réflexion sur ce thème-là de « Dieu a besoin de moi ». Encore une fois avec la figure de Marie. Comme Marie, on est invité à porter Dieu au monde. Comme Marie, on est invité à être dans notre chair, dans notre corps, ce temple vivant qui accueille la présence de Dieu et qui l'offre au monde. Et on est impliqué dans toutes les dimensions de notre vie. Et c'est à chacun, comme je disais tantôt, il n'y a pas de recette toute faite pour ça, c'est à chacun de découvrir son identité sous le regard de Dieu, par la prière, par la fréquentation aussi, en lisant la parole de Dieu. Nous, dans notre cas, on est marié, on a un conseiller spirituel. Je peux vous dire que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir quelqu'un à qui on peut parler, un prêtre, ou en tout cas quelqu'un qui a de confiance. Je pense qu'un prêtre a cette vocation d'accompagner, de nous accompagner comme peuple aussi, comme on va à la messe, on a le prêtre notre berger, mais il y a aussi individuellement ces conseils qu'on peut aller chercher. Et je peux vous témoigner que dans l'accompagnement spirituel, nous, on est un couple marié, on est une famille, notre appel est en général, est assez clair, dans le sens où on a à prioriser ce sacrement, qui est le sacrement du mariage. On a le livre tellement, on a à donner la priorité sur les autres qualités de notre vie. C'est forcé de ne pas faire passer le travail avant le mariage, de ne pas faire passer nos projets personnels avant notre vie familiale. Il y a toute une hiérarchie des priorités à établir. Et l'accompagnement spirituel nous a beaucoup aidé à maintenir, je dirais, cet équilibre de vie. On fait aussi partie, nous, des équipes Notre-Dame, qui est un mouvement pour les couples. Donc, cette dimension, c'est aussi quelque chose qui nous aide beaucoup, en fait, à maintenir le cap, je dirais, sur ce que Dieu veut pour notre couple et notre famille. Voilà. Et, comme je disais aussi, Marie a accueilli dans son corps, dans sa chair, la présence de Dieu. Et ça m'apparaît très important à notre époque. Ça m'apparaît très important de souligner ça, cette proximité de Dieu qui vient vraiment jusque dans notre réalité matérielle, dans notre réalité incarnée. On vit dans une époque, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on vit dans une époque où on dirait qu'on a créé un mur entre les choses de Dieu d'un côté et d'autre côté, toutes les réalités, je dirais, quotidienne, courante, des réalités de notre incarnation, finalement, qui fait qu'on est des êtres matériels, des êtres de chair. Et on a créé un mur de division entre ces deux réalités, qui se manifestent de différentes manières. Et ça, c'est peut-être plus à une certaine époque, mais je pense que certains ont connu ça, un certain puritanisme religieux. l'idée que finalement, bon, tout ce qui est du corps, de la chair, pour les couples, de la sexualité, tout ça c'est mal, tout ça c'est, bon, à la limite toléré, mais pour s'approcher de Dieu, mieux vaut s'extraire du monde, hein, mieux vaut, il peut développer un certain mépris de notre réalité incarnée. Grave erreur pour tous ces couples, et je dirais source de tension probablement dans beaucoup de couples qui doivent vivre dans leur réalité familiale, qui ne peuvent pas vivre comme des moines, qui ne peuvent pas vivre comme des dans un monastère. On n'est pas appelé à vivre séparés des réalités du monde. Pour les couples et les familles, je pense que c'est un message très important de dire que Dieu veut se faire présent à travers la réalité familiale. On ne peut pas trouver, quand on est père ou mère de famille, qu'on a trois enfants, on ne peut pas trouver des heures, on ne peut pas s'arrêter pendant une heure pour faire des prières. On ne peut pas avoir le rythme de vie d'un moine, d'une moniale dans un monastère. C'est dans notre réalité familiale, et ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre à découvrir, donc c'est à travers les réalités que nous impose la vie familiale que Dieu veut se faire présent. Dieu veut se faire présent quand on console notre enfant, quand on change les couches, quand on fait le ménage. Et on peut offrir toutes ces réalités très humbles, qui nous semblent à des mille de peut-être d'un certain idéal de sainteté qu'on s'est forgé. Mais pourtant, c'est là que Dieu veut qu'on mette tout notre cœur, tout notre amour. La petite Thérèse disait, il n'y a pas une occasion dans notre vie quotidienne, on a mille et une occasions d'aimer. Et tout ça est très important aux yeux de Dieu. Elle disait, même ramasser une épingle par terre en y mettant tout notre cœur, parce que ça peut aider quelqu'un, parce qu'il faut que quelqu'un le fasse, sans discriminer. C'est un acte d'amour aussi simple, aussi banal, aussi invisible aux yeux des autres, peut sauver une âme. C'est mystérieux, mais c'est la petite perle. Hein? c'est mystérieux, mais c'est comme ça. Puis je pense que c'est important d'apprendre à accueillir cette présence de Dieu dans toutes nos réalités. Puis évidemment, j'ai parlé de premier pôle, qui est le pôle, disons, où on aurait tendance à penser qu'il faut s'extraire du monde, vivre un peu comme des moines, ou je sais pas, vivre comme des... C'est très bien, hein, vivre... J'ai absolument rien contre la vocation à la vie religieuse. Simplement, il faut savoir distinguer les choses. Il faut pas demander à un couple de vivre, ou une famille, de vivre comme des personnes consacrées. Et l'autre réalité, ben, c'est évidemment la société de consommation qui, elle, va complètement oublier Dieu et qui va, je dirais, instrumentaliser toutes les réalités matérielles, va instrumentaliser le corps, instrumentaliser la sexualité pour faire de l'objet, pour faire du corps de l'autre un objet de jouissance, un objet de plaisir, qui va instrumentaliser qui va instrumentaliser les travailleurs, qui ne vont pas respecter le besoin qu'ils ont d'avoir un travail stable pour élever une famille, on va soumettre aujourd'hui à les lois de l'économie qui dominent et qui brime cette dignité du travail, des familles. Et puis aujourd'hui, ben, on les connaît, les débats qu'on a aujourd'hui au Québec sur la question de l'euthanasie. Quand une personne devient plus autonome, on va dire, elle devient... Ce qu'on laisse entendre, c'est qu'une forme d'inutilité à son existence, mais que peut-être qu'il vaudrait mieux en finir. Donc, quand la vie n'est plus vue comme un don, quand on perd de vue ce grand don que nous fait, que Dieu nous fait, et quand on oublie qu'il veut être présent jusqu'au plus profond, jusque dans la réalité la plus humble et la plus petite, eh bien, on tombe dans différentes formes de dérive. Et je pense que les chrétiens, les croyants, peu importe leur réalité, peu importe qu'ils soient célibataires, qu'ils soient vieux, jeunes, en famille, peu importe, on est appelé, je crois, et ça va être ma conclusion, je pense, on est appelé à être les gardiens, les témoins de cette proximité de Dieu dans le monde. Il y a des grandes œuvres qu'on peut peut-être être appelé à faire. J'exclus pas le fait que, il y a des grands engagements en faveur de la justice, en faveur de la paix qui sont très importants. Mais chacun dans notre réalité quotidienne, dans notre réalité même la plus humble, on est appelé à manifester, je crois, cette présence de Dieu, cette proximité de Dieu avec notre réalité quotidienne, notre réalité d'être incarné. Je pense que c'est un témoignage à une époque où on a justement tendance à vouloir tout écarter, tout juger, où l'être humain est un peu éclaté, où Dieu est de son côté, où on a et où tout le reste est de l'autre côté, où on veut marginaliser justement Dieu, eh bien on est appelé à témoigner que Dieu se fait présent dans notre réalité, dans notre quotidien. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas si vous avez des réactions, des commentaires, on peut peut-être terminer par ça. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui. Oui?
Moi, je trouve que là, je trouve ça très bien ce que tu as dit, là, de ne pas séparer, de voir Dieu vraiment dans nos réalités humaines. Et des fois, si on accomplit des choses, des êtres accomplissent des choses, on ne donne pas toujours la reconnaissance là-dessus. Moi, j'ai fait ça, c'est vrai, mais bien souvent, à travers le médecin, par exemple, à travers nos actions quotidiennes, être capable de voir aussi la main de Dieu avec nous, de le voir dans l'autre. C'est l'autre qu'on peut massacrer, qu'on... même dans la personne âgée, la personne qui a l'air, qui est dans la rue, ou je sais pas, qui a l'air de rien, mais pourtant, il y a c'est une créature de Dieu, même, on dit, ben, Dieu, il habite son cœur, il est là, fait que, être capable de reconnaître cette main de Dieu-là, de rendre grâce. Moi, j'ai fait telle affaire. Ouais, c'est beau, c'est vrai que tu as fait des choses, mais il y a quelqu'un avec toi. De pouvoir le reconnaître, quelqu'un-là, parce que moi, je trouve ça, c'est merveilleux quand on est capable d'en arriver là. Parce qu'autrement, je peux même me glorifier dans ma vie. Mais pour moi, en tout cas, c'est ça, c'est clair que dans ma vie, ça, quand je regarde la vie, je me dis non, Dieu d'un bord, puis de ça, pour moi, c'est... Fait que je pense que tu l'as bien dit, combien plus qualifié quand tu dis, ben, on a besoin du travail de l'homme pour que Dieu se faire de tout ça, mais avec l'homme, parce qu'il le veut, pas parce que le serment qui est sur ça, en tout cas. Je trouve ça bien.
Est-ce que c'est une activité religieuse que vous faites en famille à part d'être en famille,
Ben, des activités religieuses, bon. Je dirais quelque chose qui est important dans notre famille, ben, c'est le dimanche. Le dimanche, ben, ça c'est quelque chose que j'ai reçu vraiment dans ma propre famille. Ça a toujours été important de respecter le dimanche, une journée de repos, une journée qui est consacrée vraiment à... C'est ça, être en famille ou à inviter des amis, il y a toujours eu... parce que moi, en fait, je vous ai pas beaucoup parlé de ma personne, mais je viens d'une famille protestante, puis je me suis converti au catholicisme il y a environ 7 ans de ça. Mais bref, on allait au culte quand même, c'était une valeur importante, on allait au culte, puis on revenait à la maison, on passait une journée en famille. Puis à un moment donné, ça a été pour moi une décision que j'ai prise aussi personnellement. J'étais à l'université, ben j'y suis encore d'ailleurs, je suis doctorant, mais j'étais au baccalauréat, puis j'ai décidé, justement dans le contexte de ma conversion, de respecter cette journée-là du dimanche. De pas travailler. Même si j'avais un examen le lundi, j'ai étudié le samedi soir, mais pas le dimanche. Le dimanche, j'ai vraiment eu cette décision. Et ça m'a... j'ai toujours vu des jours extraordinaires de ce choix-là d'avoir donné à Dieu, d'avoir offert à Dieu cette journée-là. L'année où Thomas est né, notre plus vieux, je ne peux pas dire ça pour me vanter, mais j'ai reçu un diplôme d'excellence. J'ai eu comme le meilleur dossier de mon année. Pourtant, je ne travaillais pas le dimanche, on avait un nouveau-né. C'était un peu la folie, mais c'est juste pour dire ça pour pas qu'on m'oblige moi, mais pour rendre grâce à Dieu, que quand on lui offre quelque chose, il le prend avec joie et nous le rend aussi. Donc, et ça c'est quelque chose qui est qui est resté dans notre famille, dans le fond, le dimanche, c'est vraiment, on va pas travailler, on va essayer d'écarter un peu tous les soucis, les choses qu'on fait durant la semaine, qu'on devrait faire. On prend une pause, puis le dimanche, c'est... Donc ça, c'est quelque chose que oui, on fait en famille. Oui.
Ça tombe à rien. Parce qu'il y a beaucoup d'influence
en négatif. Mais une chose qu'on a fait aussi, ils ont 5 ans et demi, ils ne sont pas, ils sont vraiment plus très vieux, donc, mais ils ont 5 ans et demi, 3 ans et 9 mois.
Parce que c'est plus difficile quand ils sont plus vieux, parce qu'ils ont tellement, comme on dit, la religion, c'est presque...
C'est un défi, c'est sûr. C'est un gros défi, mais c'est sûr. Ben, on verra, hein, on traversera le pont qu'on sera rendu. Mais déjà qu'on essaye de donner cette place à Dieu. Quelque chose qu'on a fait aussi, c'est qu'on a essayé de purifier un peu notre mode de vie. Là, on s'est désabonné du câble. Il y a des choses qu'on a fait comme ça pour essayer de faire de la place, de faire de l'espace. Je veux dire, dans notre société, on dirait qu'on peut rapidement être enseveli, là, avec les médias sociaux, les téléphones cellulaires, avec la télévision. Il n'y a rien de ça qui est en soi mauvais, là, c'est pas pour démoniser quoi que ce soit, mais c'est juste que ça prend de la place, ça prend du temps. Puis bon, à un moment donné, ben, si ton œil te mène à pêcher, à raclure, ben je pense que si tu passes ton temps devant la télévision, ben. C'est ça, c'est à un moment donné, ça c'est chacun qui a discerné, mais nous autres, on a discerné qu'à un moment donné, bon, peut-être que...
C'est sûr que toi,
tu es
très croyant. Parce que quand les parents sont plus ou moins croyants,
ouais.
Ils ne
peuvent
pas.
Il faut qu'il y ait
des modèles
chez eux,
pas juste
à la... Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr, hein, les enfants, c'est par imitation qui apprennent beaucoup. Oui?
Il y a une chose que vous avez dit, et puis... ça m'a touché parce que moi, comme vraiment, aujourd'hui, les gens vont voir au côté matériel que Dieu. Mm-hmm. Et on dirait qu'il y a un mur vraiment qui sépare. Alors moi, je demande au Seigneur de couper son mur, de détruire vraiment. Parce que dernièrement, je causais avec une madame qui me disait, et une fois que c'était la on parlait de Jésus, elle dit, qui est Jésus? Moi, j'étais étonnée. Mm-hmm. Attends, mais qu'est-ce qui ne connaît pas Jésus? Et puis, je me rappelle que chez nous, même si les païens savent que Jésus existe, quelqu'un ne prie pas, mais ils savent que Jésus existe. Franchement, moi aussi, je viens d'une famille protestante. On m'a appris tout petit, Jésus, histoire de la Bible, je connais la Bible, histoire de la Bible, tout petit. Alors, attendre qu'un adulte, une jeune, adolescent qui ne connaît pas, donc, je ne veux pas dire Jésus, moi, ça me dépasse. Donc, on dégage seulement les choses du monde, mais on nous dit vraiment Dieu qui nous a créés, tous les deux. Ça me dépasse vraiment. On devait prier le Seigneur pour qu'il nous donne vraiment la
vie. On va continuer. On va continuer, puis tu finis. Parce qu'on va aller en équipe tantôt. On va aller en équipe. Vous pourrez faire des échanges.